Europe 1, 13h, 14h, le carnet du monde.
Carnet du monde.
Дневники мира.
Europa 1.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour feuilleter ensemble les carnets de ce monde en perpétuel changement. D'ici 14h, vous entendrez les Congolais qui, ce dimanche, commémorent l'assassinat de Patrice Lumumba, premier ministre de leur pays, la République démocratique du Congo. C'était il y a 60 ans, juste après l'indépendance. Lumumba était alors devenu le héros de l'anticolonialisme. On sera à Kinshasa et à Bruxelles. Le poids de l'histoire continue à peser sur la Belgique. Vous entendrez aussi des Rwandais Hutus qui ont refusé de devenir des génocidaires en 1994. Jean Hatzfeld est notre invité. Il vient d'écrire un sixième livre magnifique sur ce peuple si tourmenté. Et puis on entendra des amoureux qui parfois ont bien du mal à se retrouver à cause de ce maudit virus. Les reportages de nos correspondants nous emmèneront dans les motels brésiliens, véritables institutions populaires là-bas. En Turquie, où les couples binationaux se réunissent sans trop de tracasseries administratives. Et enfin, sur la frontière entre l'Allemagne et le Danemark, qui sépare un couple d'octogénaires très déterminés à ne pas se laisser faire. Un mot aussi pour vous dire un grand merci, car on a découvert cette semaine les audiences radio de la fin d'année 2020. Et vous êtes 180 000 auditeurs de plus dans la grande famille des carnets, deux fois plus nombreux que l'année d'avant, à vadrouiller avec nous chaque dimanche, ce qui nous fait un immense plaisir. Et nous voilà repartis, les carnets sont ouverts, première destination, Kinshasa.
Europe 1, les carnets du monde.
C'est un anniversaire aujourd'hui en République démocratique du Congo. La RDC commémore le 60e anniversaire de la mort de Patrice Lumumba. C'était le premier ministre de l'indépendance, 2 mois et demi au pouvoir seulement, avant d'être assassiné dans des circonstances obscures, ce qui l'a transformé en symbole, en RDC, et au-delà, comme une sorte de martyr de la décolonisation. Quel héritage laisse-t-il dans son pays? Aujourd'hui, 60 ans tout juste après sa mort, Nicolas Hicks à Kinshasa a posé la question aux Congolais.
Il est 10h ce matin à Kinshasa, et dans le quartier résidentiel de Limété, des commerçants s'activent, le marché bat son plein. En relevant la tête, on aperçoit la statue d'un homme, le poing levé.
Bonjour madame. Est-ce que vous savez qui est la personne qu'on voit là?
J'ai oublié.
Bon, monsieur Lumumba, il était premier ministre.
Et est-ce que vous savez ce qu'on fête dimanche?
Dimanche? Non, je ne sais pas.
Patrice Lumumba a effectivement été le premier ministre de la République démocratique du Congo, mais il a surtout marqué les esprits pour son combat pour l'indépendance de son pays, alors une colonie belge. Militant de la première heure, le discours extrêmement fort contre le racisme des colons qu'il a prononcé devant le roi des Belges lors de l'indépendance l'a fait entrer dans l'histoire. Mais la situation bascule 3 mois plus tard. Il est destitué de ses fonctions de premier ministre. 6 mois plus tard, il est sauvagement assassiné et son corps dissous dans de l'acide. Malgré la brièveté de son mandat, son histoire a fait le tour du monde et Lumumba est devenu une figure incontournable de l'histoire du continent. Mais en RDC, même si son successeur Mobutu, qui a régné pendant plus de 30 ans, a érigé Patrice Lumumba en héros national, tous ne semblent pas le connaître.
Peut-être que selon moi, je n'étais pas attentive quand on donnait le cours en tout cas, parce que là, je ne connais pas trop, je ne connais pas profondément qui est Lumumba, je sais juste que c'est un héros.
Sarah fait partie d'un groupe de jeunes Congolais qui se réunit régulièrement.
Mais plus qu'il fallait attendre. Voilà.
Elle a été négociée par des offices.
Conscients de leurs lacunes, ils ont décidé d'en apprendre plus sur leur pays.
Pour moi, c'est important parce que c'est l'histoire.
C'est vraiment quelque chose que nous tenons à cœur. D'autres gens pensent que Lumumba est mort pour sa femme. Ce n'est pas le cas, Lumumba est mort pour sa patrie.
Ensemble, ils regrettent que les célébrations du 60e anniversaire ne soient pas plus importantes.
Les gens en profitent pour dormir, c'est un jour férié, donc les gens en profitent pour ne pas aller travailler, ne pas aller à l'école. Il y a un manque d'engouement dû au manque d'informations.
Pourtant, cette année, en juin prochain, les célébrations auront une saveur particulière. La Belgique a annoncé qu'elle remettrait aux enfants de Patrice Lumumba ce qu'il reste de lui. Une dent qu'un policier belge présent au moment de son assassinat aurait gardée pour lui. Un point crucial pour sa famille car Patrice Lumumba n'a jamais eu de funérailles et au Congo, le deuil ne s'arrête que lorsque le corps est mis en terre. Aujourd'hui, seuls 3 de ses enfants sont encore en vie et pourront participer à la cérémonie. François Lumumba est l'aîné d'entre eux.
On se prépare en conséquence. Nous sommes en train de tourner les pages.
Oui, c'est une bonne chose comme première étape.
François Lumumba nous accueille dans sa grande maison située boulevard Lumumba, non loin de la statue de Patrice Lumumba. Une grande maison dont le salon ne porte aucune trace de son père. Il se rappelle son engagement.
Notre père, il était combattant, combattant de la liberté. Il était prêt à tout, même sacrifier sa vie pour le Congo, rien que pour le Congo. Je me rappelle très bien qu'il était tout le temps absent de la maison. Toujours c'était la politique, la politique.
Aujourd'hui, à la tête du petit parti politique créé par son père, François Lumumba essaie de perpétuer son héritage.
Le combat de Patrice Lumumba, il reste toujours dans l'actualité pour la simple raison qu'on n'a pas trouvé de remède et de solution là-dessus, en ce qui concerne l'impunité, en ce qui concerne l'indépendance économique, etc.
Depuis la mort de Lumumba, la République démocratique du Congo a connu une succession de conflits armés. Aujourd'hui, cet immense pays qui regorge de richesses minières est pourtant l'un des plus pauvres du monde et gangréné par la corruption. Une situation qui pousse une partie de la jeunesse kinoise engagée, comme Jonathan Eloho, à se tourner vers la figure de Lumumba.
Voilà un privilégié qui aurait pu se dire, écoutez, je suis un évolué, je suis respecté, je reste comme ça sur mes acquis, je suis content. Il aurait pu dire ça. Et il n'a pas dit. Il a dit, ok, je suis arrivé là et je vais en faire profiter le plus grand nombre. Et s'il faut, à l'époque, on parle de 30 millions de Congolais, donc je vais en faire profiter 30 millions de Congolais. C'est ça qui inspire. C'est ce genre d'homme politique capable de s'oublier pour pouvoir penser aux communautés. Parce que si vous n'êtes pas capable de vous oublier, ne faites pas de politique.
Aujourd'hui, Jonathan milite pour que Patrice Lumumba prenne plus de place dans les manuels scolaires et espère que lorsque ses restes seront rendus au Congo, tous les Congolais sauront qui est Patrice Lumumba. À Kinshasa, Nicolas X, Europe 1.
Indépendance, tcha tcha, tozoumiye, okikwaza, tcha tcha, toubakidi, au table rond, tcha tcha, va gagner.
Indépendance Tcha-Tcha, la fameuse rumba congolaise signée Grand Calais, une chanson composée pour célébrer l'indépendance du pays en 1960, chantée dans les trois langues principales du Congo pour que tout le monde puisse bien comprendre. Et d'ailleurs, c'est souvent par cette chanson diffusée par la radio Congo belge à l'époque que les Congolais ont appris l'indépendance de leur pays. Indépendance Tcha-Tcha est ensuite devenue une sorte d'hymne des mouvements anticolonialistes. On prend la direction de la Belgique où nous attend Isabelle Horry. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Alors, la Belgique, c'est l'ancienne puissance coloniale qui a participé à l'élimination de Patrice Lumumba il y a 60 ans, jour pour jour. Aujourd'hui, Bruxelles s'apprête donc à restituer une de ses dents. Pourquoi seulement une dent ?
Eh bien, comme l'a dit Nicole, c'est tout ce qui reste. Alors, c'est macabre, mais à l'époque, le corps du héros de l'indépendance a été scié en morceaux et dissous dans l'acide. Si on le sait, c'est parce que l'un des assassins s'en est vanté dans les médias. Il s'agit d'un policier flamand, très fier de lui, visiblement. Il affirme avoir tué Lumumba avec un autre blanc et quatre militaires congolais. En souvenir, si j'ose dire, il avait conservé deux dents. Pourquoi ? Eh bien, pour qu'on le croit, a-t-il expliqué dans l'une de ses interviews, car selon lui, tout le monde voulait se vanter d'avoir tué Lumumba. Alors cet homme est mort à 80 ans en l'an 2000 sans jamais avoir été inquiété, mais sa fille a pris le relais et il y a 5 ans, elle a montré à son tour une dent en or à un journal flamand. L'autre a apparemment disparu.
Et c'est là que l'État belge s'est enfin décidé à réagir ?
Eh bien non, c'est un particulier, en fait, un sociologue spécialiste de l'affaire Lumumba qui est allé porter plainte pour recel de dents et donc cette dent a été saisie et confiée au parquet fédéral belge. Ensuite, eh bien, il a fallu attendre juillet de l'an dernier pour que la Belgique bouge. La fille de Patrice Lumumba, Juliana, a écrit une lettre au roi des Belges, Philippe. Une lettre qu'elle a aussi enregistrée dans une vidéo qui a marqué. En voici un court extrait.
Sire, nous rappelons à votre auguste mémoire que depuis le 17 janvier 1960, nous n'avons aucune information qui détermine avec exactitude les circonstances de la mort tragique de notre père, ni de ce qu'il est advenu de sa dépouille. Nous croyons que le temps de l'acharnement punitif sur la dépouille de Lumumba est passé et que l'heure de la juste justice est arrivée.
Voilà, cet appel est le 60e anniversaire de l'indépendance du Congo. On fait bouger les choses. En septembre dernier, le parquet fédéral a fait savoir qu'il tenait la dent à disposition des héritiers.
Histoire étonnante, vraiment de bout en bout. Est-ce que la Belgique a fait des excuses pour son rôle dans l'assassinat de Lumumba ?
Les relations entre la puissance coloniale et l'ancienne colonie sont restées vraiment très longtemps émotionnelles, un peu comme les relations entre la France et l'Algérie, parce que énormément de familles belges ont des liens avec le Congo, beaucoup y ont vécu. Alors la Belgique a reconnu sa responsabilité morale en 2001 et en 2002, le ministre des Affaires étrangères, Louis Michel, à l'époque, a fait des excuses au nom du gouvernement, à la famille Lumumba et au peuple congolais. Mais tout n'est pas éclairci pour autant, hein, quel rôle a joué la CIA, qui ne voulait pas d'un dirigeant proche des soviétiques, qu'ont fait exactement les autorités belges de l'époque, qui a donné l'ordre fatal, on ne sait pas tout ça en fait.
Et aujourd'hui, quelles sont les traces? Est-ce qu'on parle de Lumumba ces jours-ci en Belgique par exemple?
Alors oui, dans la presse. Alors avant tout, pour bien réexpliquer qui il est, il y a aussi une enquête qui est ouverte depuis des années pour crimes de guerre, mais pour qu'un procès ait un sens, ben, il faudrait qu'il vienne vite parce que seuls 2 des 10 accusés potentiels sont encore en vie. Pour honorer la mémoire de Lumumba, la mairie de Bruxelles a accepté en 2018 de donner son nom à un petit square. Alors c'est vraiment un endroit pas joli, à l'entrée du quartier congolais de Matongé, entre une station de métro et un magasin de vêtements. Mais c'est déjà mieux que rien, m'a dit le représentant d'une association. Dans le journal Le Soir, le petit-fils de l'éphémère Premier ministre regrette qu'il n'y ait pas de statue dans la capitale. Alors qu'en revanche, il y a encore des statues du roi Léopold II, le roi colonisateur, celui qui avait fait du Congo sa propriété personnelle.
Et on en reparlera sans doute en juin, lors de l'anniversaire de l'indépendance, car c'est à ce moment-là que la fameuse dent de Lumumba devrait rentrer au pays. Merci beaucoup Isabelle, à bientôt.
À bientôt.
On file chez le petit voisin de la RDC sur sa frontière est, le Rwanda. S'est défait de la tutelle belge en 1962, déjà sur fond de violents conflits tribaux entre Hutus et Tutsis. 32 ans plus tard, on le sait, c'était le génocide. L'écrivain Jean Asfeld nous rejoint pour en parler dans un instant.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Il a été journaliste sportif, reporter de guerre pendant 25 ans et puis il est devenu écrivain. Jean Asfeld est l'invité des carnets aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Je suis ravie de vous accueillir pour évoquer votre dernier livre qui vient de paraître Là où tout se tait. C'est le 6e livre que vous consacrez au génocide rwandais.
Oui.
Un massacre de masse qui a eu lieu, je rappelle, entre avril et juillet 1994, paroxysme de la guerre civile rwandaise qui opposait le gouvernement composé de Hutu au Front patriotique rwandais, le FPR, accusé de vouloir imposer le retour des exilés Tutsis dans leur pays. Plus de 800 000 Rwandais ont été tués en 3 mois, majoritairement des Tutsis. Et depuis toutes ces années, Jean Asfeld, vous écoutez et vous nous faites entendre dans vos livres ces hommes et ces femmes, les rescapés, les bourreaux, ceux qui restent et qui ont dû réapprendre à vivre côte à côte sur les collines de Nyamata. C'est un ensemble de 14 collines, rappelez-vous, où 51 000 Tutsis sur les 59 000 qui vivaient là ont été massacrés. Vous revenez toujours, vous retournez toujours et vous nous emmenez toujours au même endroit. Parce que, pourquoi ? C'est comme un concentré de l'humanité et de l'inhumanité ?
Exactement. Je pense qu'il y a, sans employer des mots trop d'ampleur, mais je pense qu'il y a... C'est l'universel est là, on n'a pas besoin d'aller au nord, au sud, on n'a pas besoin finalement de faire du journalisme. Maintenant, ce qui m'intéresse, moi, c'est de me poser la question de comment on vit avec ce qu'on a vécu et non pas de qu'est-ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, on le sait à peu près. Et donc, maintenant, je m'intéresse beaucoup, moi, à comment vous vivez après avoir traversé cette expérience qui a été celle de l'extermination, que vous ayez été rescapé, survivant, sorti des marais ou des collines, ou que vous ayez tué, ou que... Vous ayez été de famille qui... voilà. Donc je pense que ce n'est pas la peine d'aller trop loin. Il faut plutôt attacher de l'importance à 2 choses. Le temps qui passe, c'est-à-dire que chaque année, les mémoires changent, des choses qui n'ont pas pu être dites à un moment donné peuvent être 10, 20 ans après. Et puis, essayer de trouver... Des entrées différentes pour rentrer dans cette histoire. Donc, une fois, ce sont les rescapés, une fois, c'est un globet, une fois, ce sont les jeunes.
Cette fois-ci, ce sont les Abarinzi Wigerngo. J'ai pas trop mal prononcé.
Non, très bien prononcé.
Donc, ce sont les gardiens du pacte de sang, c'est-à-dire les Hutus qui n'ont pas cédé à la folie meurtrière et qui ont aidé des Tutsis. Pour simplifier, on peut dire que ce sont des justes.
Voilà.
Ils sont assez peu.
Ils sont très peu. Ça s'explique très facilement. J'ai mis du temps à le comprendre, mais enfin, une fois que... C'était une violence extrême et une violence très rapide. C'est-à-dire que, par exemple, à Nyamata, on a tué 51 000 personnes en 7 semaines. Donc, on n'est pas du tout dans la situation, par exemple, de la Deuxième Guerre mondiale, où des gens peuvent s'organiser,
réfléchir.
Ils ont une année, ils ont des années, ils peuvent former des réseaux, ils peuvent trouver des chemins, chercher des plans.
Ils peuvent trouver le courage en eux-mêmes, peut-être
voilà,
aussi.
trouver le courage en eux-mêmes, tester, etc. Là, ils ont été pris par la soudaineté de l'extrême de la violence.
Alors, il y a cette pression que vous évoquez aussi, qui est mise sur les Hutus. Le voisin d'un Hutu tué pour s'être élevé contre une bande de jeunes coupeurs, comme on les appelle, ce voisin qui essaye de justifier ses propres meurtres, hein, il a fait 12 ans de prison, vous raconte la visite dans les premiers jours d'avril 1994 d'un bourgmestre qui a rassemblé les Hutus du coin. Il nous a sermonnés, explique le voisin, menaçant à l'avance ceux qui allaient cochonner le travail. La seule réglementation des tueries était de persévérer jusqu'à la fin. Inutile de feindre, gare aux tricheurs. Il fallait du courage donc pour prendre un autre chemin face à cette pression-là.
Voilà. Parce qu'on pouvait, en fait, on peut toujours un peu tricher dans la vie, c'est-à-dire traînailler par derrière sans trop mouiller la machette. Tout le monde n'était pas enthousiaste pour tuer. Mais celui qui s'opposait, celui qui disait « non, vous êtes fou » ou « je ne veux pas » ou « je veux sauver », lui risquait la mort tout de suite. Et d'ailleurs, moi, sur les 10 justes que j'ai pu trouver sur cette colline de Nyamata, il y en a la moitié qui sont morts. C'est-à-dire que je n'ai pas pu faire parler parce qu'ils sont déjà morts le premier jour ou le deuxième jour ou le troisième.
Alors parmi ceux qui ont eu le courage, ce courage, je vous propose d'écouter Gaspard Kalissa. Il a 59 ans, père de 6 enfants, Hutu bien sûr. C'est notre correspondante Margot Chevance qui l'a rencontré. À l'époque du génocide, il était chauffeur mécanicien et il a aidé une trentaine de rescapés Tutsi à se cacher pendant le premier mois du génocide. En mai 1994, avec sa famille et une poignée de rescapés, ils ont fui vers la RDC. Ils ne sont revenus en Rwanda qu'en 1996. Écoutez.
Chez moi, j'ai caché des Tutsis dans des paniers de haricots, d'autres sous les lits. J'avais aussi une petite annexe dans le quartier. Là-bas, j'ai mis un sommier, des coussins et les gens se cachaient en dessous. Un soir, on a su que les miliciens les cherchaient. J'étais prêt à donner tout ce que j'avais, mes 11 vaches et mes 70 chèvres de race alpine pour qu'ils les laissent en vie. J'avais très peur. Mais quand la peur venait, je m'agenouillais et je priais. En 1994, c'était difficile de choisir le côté auquel appartenir. Avec mon père, ma sœur, mon petit frère, dès le début, on a décidé d'être du côté de ceux qui étaient menacés. Après le génocide, d'autres gens de ma famille nous ont accusés de trahison car j'avais caché des Tutsis. Ils m'ont dit « Vous avez caché les serpents vont vous mordre ». Ils étaient tellement fâchés de savoir que les Tutsis avaient survécu grâce à moi qu'ils voulaient me tuer.
Alors cet homme évoque la peur, la difficulté de choisir son camp hein, qu'on évoquait, et puis cette accusation de trahison à laquelle ces justes ont tous dû faire face.
Alors ce qui était extraordinaire dans ces histoires de justes, c'est que paradoxalement, malgré ce qu'ils ont fait d'héroïque, d'unique, ils sont un peu maudits. Ils sont maudits un peu de tous les côtés. C'est-à-dire que dans la communauté Hutu, ils sont soit des traîtres, c'est la trahison, d'ailleurs mon livre est un livre sur la trahison d'une certaine façon, soit ils renvoient l'image de ce qu'on a pu être si on n'a pas voulu tuer, c'est-à-dire qu'en fait, tous les Hutus disent maintenant on a été obligés, on ne pouvait pas faire autrement, et eux montrent que c'était possible de faire autrement. Et dans la communauté Tutsi, il y a des soupçons qui sont portés sur eux, parce que malgré tout, les Tutsis ont du mal à envisager que ce soit possible d'avoir sauvé des Hutus. C'est-à-dire qu'ils portent un soupçon. Il y a quand même beaucoup de Hutus qui ont sauvé des Tutsis en contrepartie, par exemple, de la survie de leurs femmes. C'est-à-dire qu'ils allaient tuer et sauver leurs femmes. Il y a eu un marchandage. Mais des Hutus qui ont sauvé par amitié ou par amour uniquement, ou par bonté, simplement la bonté, ils n'y croient pas trop. Ils existent, mais ils n'y croient pas trop.
Il y a un voisin d'un Hutu qui est mort et dont vous racontez l'histoire, Isidore, qui est mort pour s'être élevé contre une bande de jeunes. Là, ce voisin dit « Mes yeux ont vu mes enfants et mon épouse coupés par des Hutus. Je ne peux pas inviter un Hutu dans les souvenirs de deuil. On accepte de mélanger les vivants Tutsis et Hutus pour la réconciliation nationale. Moi-même, je suis très volontaire en réunion de pardon. Les morts, toutefois, c'est grand-chose. »
Exactement. C'est-à-dire que comme on a un doute, On ne va pas mélanger les doutes. Il y a Innocent Ruiz-Liza qui dit quelques pages plus loin, il n'y a que les morts qui peuvent savoir si ce sont des vrais justes, parce qu'il n'y a que les morts qui peuvent savoir s'ils n'ont pas été tués par eux. C'est quelque chose d'extraordinaire de penser ça. Quand même.
Jean Asfeld, voici un autre homme qui était pasteur, lui, à Gikumbi, un Hutu père de 9 enfants qui a caché 320 Tutsis, d'abord dans son église, puis chez lui, un peu partout, sous les lits, dans des trous, dans la brousse, dans les habitations autour, autour de chez lui. Il s'appelle Gratien Mitsindo.
J'étais pasteur à l'époque. Je devais protéger ceux qui étaient menacés. Je ne devais pas faire de discrimination. Je me suis mis à la place des victimes. Si elles étaient persécutées pour leur ethnie, je devais me joindre à elles. En 2007, quand les autorités ont commencé à recenser les justes, on m'a demandé pourquoi j'avais sauvé les gens et je n'avais rien dit. Alors j'ai été récompensé avec une vache et un certificat de mérite. Mais j'ai quand même été persécuté pour mes bons actes pendant le génocide. J'ai subi des injustices dans le voisinage. Une fois, les gens sont même venus planter de grosses épines dans le dos de ma vache, depuis la tête jusqu'à la queue. Le matin, j'ai enlevé toutes les épines, je les ai brûlées, puis j'ai appelé les autorités. On m'a fait beaucoup de mal, jusqu'à présenter de fausses accusations contre moi pour que j'aille en prison. J'ai dû écrire aux autorités pour dire que j'avais été emprisonné à tort et j'ai été libéré.
Voilà, la persécution, là encore, mais cet homme-là, il a reçu quand même une distinction, et ça a été le cas de certains, mais pas de tous les Hutus qui se sont élevés contre le génocide. Vous faites la comparaison avec l'extermination mise en œuvre par les nazis en 1942, vous parlez aussi de la terreur soviétique en 1937-38, avec cette différence au Rwanda, presque toutes les victimes tuées l'ont été à la main par des civils, tués en face à face par des voisins Hutus. Et est-ce que ça explique la violence du ressentiment, la difficulté à honorer les Hutus ?
Certainement. Vous savez, 80% des personnes qui ont été tuées, donc ces 51 000 personnes à Nyamata, l'ont été à l'arme blanche. Donc pas toujours la machette, mais la hache, le couteau, etc. C'est-à-dire des yeux dans les yeux. C'est quand même pas pareil que vous pouvez imaginer que quand on utilise des mitrailleuses ou des chambres à gaz qui éloignent quand même la victime, qui éloigne même les témoins de cela. Là, tout le monde le voit, c'est autour des marais, dans des forêts, sur la grande rue de Nyamata. Ça change considérablement le souvenir qu'on peut en avoir.
Des démarches ont été entreprises quand même, vous l'expliquez, depuis 10 ans par Ibuka, l'association pour la mémoire du génocide Tutsi, pour honorer ses justes. Vous dites que Ibuka s'inspire de l'action de Yad Vashem, hein, l'Institut israélien pour la mémoire de la Shoah, mais que la démarche est différente au Rwanda.
Oui, parce qu'on privilégie l'attitude après, c'est le cas du monsieur qui vient de parler, l'attitude après, c'est-à-dire son engagement dans la réconciliation nationale.
Il faut que ça serve la politique de réconciliation nationale.
C'est pour ça, par exemple, que moi, sur les 10 personnes de mon livre, il n'y en a aucune qui est reconnue par l'État. Il n'y en a qu'une qui est reconnue par l'État. Les 9 autres ne le sont pas parce qu'elles n'ont pas participé à cet effort-là.
Vous avez grandi, Jean Asfeld, au Chambon-sur-Lignon, qu'on appelle parfois le village des Justes, dont les habitants, avec d'autres communes voisines, ont caché des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que c'est aussi pour ça que ça vous tenait à cœur particulièrement de rendre hommage aux Abarinzi Wigihango, donc ces Justes Hutus au Rwanda ?
Je sais pas, peut-être que oui, puisque j'ai grandi dans cette ambiance-là. Ouais. Mon père lui-même est allé se cacher là-bas. Mais ce qui m'a quand même le plus motivé, c'était de raconter des belles histoires d'amitié et d'amour. Ouais. Parce que il n'y a pas que l'horreur dans ce livre, il y a beaucoup d'amour et beaucoup d'amitié quand même.
Et Dévote, qui a perdu son mari et ses 4 enfants, et qui a été sauvée par Eustache, qui vous raconte qu'elle croise celui qui l'a poussée dans un trou et dont elle est rescapée, qu'elle lui a accordé son pardon, mais elle vous dit aussi, de toute façon, aucun pardon n'est possible. Vous qui allez depuis si longtemps au Rwanda, est-ce que c'est aussi votre impression ? Ou est-ce que la nouvelle génération qui n'a pas connu le génocide réussit à écrire une autre histoire en ce moment ?
Je ne pense pas, mais je suis contredit par beaucoup de gens. Je n'ai pas de vérité. Je pense qu'on ne peut jamais oublier ça et qu'on ne peut pas pardonner à quelqu'un qui ne vous demande pas pardon, c'est-à-dire qui ne vous dit pas la vérité. Vous voyez, en passer par l'Église, en passer par Dieu ou en passer par l'État, ça ne suffit pas. Il faut aller voir quelqu'un et dire « c'est moi qui ai tué ta sœur ». Alors là, peut-être le pardon est possible.
Voilà les histoires de Isidore, Eustache, Martienne, Marcel, Espérance, Setakoué. Merci beaucoup, c'est Jean Asfeld. Là où tout se tait, c'est votre dernier livre. Il est publié par Gallimard. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui sur Europe 1.
C'est moi qui vous remercie.
Et d'un livre, on passe à un autre livre. Nicolas Caro nous rejoint dans un instant.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Voici venu notre petit moment culture des carnets. Parfois c'est une musique, parfois une série. Et aujourd'hui, la littérature étrangère. Bonjour Nicolas Caro.
Bonjour Sophie.
On fait escale en Grèce cette semaine, pas pour un roman, mais pour un hommage à un écrivain disparu.
Vassilis Alexakis, oui, il est mort cette semaine à 77 ans. Alors le nom comme ça ne nous parle pas forcément, mais c'était l'un des plus grands écrivains grecs. Et... comme chez vous, Sophie, on accueille précisément les écrivains étrangers. J'avais consacré une chronique à l'un de ses livres, son avant-dernier. C'était en 2012 et j'avais eu le grand honneur en plus de parler avec lui.
Et en français, n'est-ce pas ?
Bonne mémoire. Vassilis Alexakis avait une particularité rare. Il écrivait dans deux langues, en français et en grec. Il est né à Athènes, mais il a vécu longtemps en France. Il est arrivé à Lille à 17 ans pour apprendre le journalisme. Il est devenu ensuite journaliste pour Le Monde, La Croix ou France Culture. Il publie son premier roman en 1960. Le Sandwich, prix Médicis pour la langue maternelle en 95. Il a publié une vingtaine de romans. Il écrivait donc ses livres en français et ensuite il les traduisait lui-même en grec, comme Beckett le faisait avec ses romans. Le problème dans ces cas-là, ou plutôt ce qui est super dans ces cas-là, c'est qu'un traducteur normal respecte scrupuleusement le roman. Là, pas du tout. Vassilis Alexakis modifiait, améliorait, en tout cas déformait, changeait son livre écrit en français quand il se mettait à l'écrire en grec.
Vous nous aviez parlé d'un de ses romans en 2012, c'était lequel?
L'enfant grec. Le dernier s'appelait La Clarinette. Là, c'était son avant-dernier. Il rendait hommage à son éditeur mythique de chez Stock dans La Clarinette, Jean-Marc Roberts. Mais dans L'enfant grec, Vassilis Alexakis se racontait lui-même. Son alter ego littéraire vit en France, à Paris. Il est écrivain aussi, bien sûr. Et il est victime d'un anévrisme, un mot grec que l'auteur s'en veut de ne pas comprendre. Il est opéré de la jambe. Et de la jambe, il ressort avec deux béquilles. Résultat, il ne peut plus monter dans son appartement au cinquième sans ascenseur, forcément. Il décide de prendre une chambre dans un hôtel en face du jardin du Luxembourg et tous les matins, il va s'y balader. Il part en même temps que les gens pressés. Mmh. Il s'ennuie un peu, il s'assoit à une table du jardin du Luxembourg. Il finit par y avoir ses petites habitudes. Il observe les gens, les passants, les promeneurs et à chaque fois, il y reconnaît les héros de son enfance. Un vieux monsieur avec une petite fille, hop, c'est Jean Valjean. Il croise dans le même esprit D'Artagnan, Richelieu, Don Quichotte, Tarzan et un héros de la littérature grecque qui s'appelle Georges Azur. Un seul grec. Oui. Alors j'avais été un peu étonné. J'ai appelé Vassilis Alexakis en 2012 et je lui ai dit « Mais vous êtes grec pourtant, vous avez plein de héros. Ajax, Ulysse, Achille, pourquoi vous n'en parlez pas ?» Et voilà ce qu'il m'a répondu.
Tous ces personnages de la mythologie grecque, on les a connus à l'école, je les ai connus à l'école grecque. Or l'école grecque a le talent de rendre exécrable et détestable tout ce dont elle parle. Donc enfant, on n'a jamais joué à être Ulysse, Achille, etc. Mais on jouait évidemment à être Robin des Bois, Tarzan ou D'Artagnan, Cyrano, etc. Et c'est un problème typiquement grec, c'est que l'école nous éloigne de cette belle tradition grecque que moi, j'ai dû découvrir en France et en français. Enfin, j'ai lu les classiques grecs en français, évidemment, j'ai trouvé que c'était pas mal.
Ouais, c'est assez beau finalement de découvrir sa culture après avoir quitté son pays. Mais justement, est-ce qu'il parle dans ce livre de la Grèce contemporaine ?
Bien sûr, puisque à ce moment-là, la Grèce était en pleine crise économique. Il était dur avec son pays, Vassilis Alexakis. D'ailleurs, il se mêlait un peu de politique. Il était proche d'Alexis Tsipras, l'ancien Premier ministre. Il était très sévère aussi avec les technocrates européens pendant cette crise. Ils n'ont pas compris, selon lui, que pour sauver un pays, il fallait d'abord le comprendre.
Moi, je suis étonné, si vous voulez, que les émissaires européens et Angela Merkel aujourd'hui se rendent en Grèce et qu'à aucun moment ces personnes n'éprouvent le besoin de piquer une tête dans la mer, n'est-ce pas ? C'est pas la peine d'aller en Grèce si on n'éprouve pas ce besoin. Qu'elles prennent le temps, qu'elles trouvent une demi-heure pour faire autre chose que des contes, n'est-ce pas ? Je veux dire, on ne peut pas réduire la vie, donner cette image, si vous voulez, d'une Europe qui est tout à fait apte à faire des contes, et des contes justes et des contes nécessaires, mais où il n'y a rien d'autre, n'est-ce pas ? Aucune autre sensation, aucun autre plaisir.
C'est vrai qu'aller en Grèce sans piquer une tête, c'est étrange. C'est pas un essai économique, hein, quand
non,
même.
Non, pas du tout. Ce sont des digressions avec ce regard d'écrivain sur la crise, mais tout le reste, ce sont des souvenirs, des nostalgies littéraires, des idées sur la vie. Un beau roman.
L'enfant grec, donc édité chez Stock et signé Vassilis Alexakis, le plus français des écrivains grecs. Il avait aussi à son actif quelques dessins de presse dans sa jeunesse. Merci beaucoup Nicolas et à tout à l'heure pour La Voix et Livre.
À suivre, comment font les amoureux pour se retrouver avec tous ces confinements depuis 10 mois?
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Le coronavirus aura mis les amoureux à rude épreuve parfois. On évoquera tout à l'heure ceux qui ne vivent pas dans le même pays. Mais même quand on habite sous le même toit, dans un petit appart avec deux enfants par exemple, ou qu'on habite dans la même ville mais sous couvre-feu ou confiné, eh bien se retrouver dans l'intimité, ça n'est pas simple. Alors au Brésil, la solution, c'est le motel. Il y en a au moins 5500 dans le pays qui reçoivent 100 millions de clients par an. Mais rien à voir avec l'idée qu'on a d'un hôtel un peu miteux et glauque, vous allez l'entendre. Ce sont des lieux réservés aux adultes, pas de mineurs ni d'enfants, discrétion assurée et service très discret. Reportage signé Marine Audachet.
Attention les oreilles, nous sommes dans l'un des motels les plus luxueux de São Paulo, mais avant d'entrer dans le cocon des chambres pour adultes consentants, j'attends ma guide. Et comme nous sommes au bord d'une autoroute, c'est bruyant, car ici tout est fait pour les automobilistes, ou plutôt pour leur anonymat.
L'entrée du motel, c'est ici. Regardez, il y a même un couple qui arrive là. Ils arrivent en voiture, toujours en couple, tout est confidentiel. Ils vont directement dans leur chambre.
Christiane est la concierge de ce motel qui s'appelle le Lush Motel et elle va nous ouvrir quelques-unes des plus jolies suites.
Vous arrivez dans ce garage privatif, sous la chambre, vous montez l'escalier. C'est une chambre verte qui vous donne l'impression d'être dans un jardin. C'est apaisant, n'est-ce pas? Cette suite est une merveille. Il y a une piscine privée, bien profonde. Je n'ai même pas pied, moi. Il y a pas mal de miroirs, c'est commun dans les motels. Bon, là, vous avez un toit ouvrant au-dessus de la piscine. Je vais vous montrer. Il y a une grande baignoire de balnéothérapie, un sauna.
Avec la télécommande, Christiane change les couleurs de la piscine, rouge, bleu, vert. Elle change aussi la musique, car les motels haut de gamme veulent gommer cette image d'un lieu qui serait réservé au sexe avec une décoration rouge et noire. Car venir au motel, c'est aussi se retrouver hors de chez soi pour une expérience qui va au-delà de l'érotisme.
Le client ne vient pas ici que pour ça. Vous voyez, ici, on peut tout faire sans quitter la chambre. On a des anniversaires de mariage, des demandes en mariage même. Certains nous demandent de créer une allée de pétales de roses avec des bougies partout pour créer un impact.
Quand on n'est pas brésilien, la première fois qu'on vous propose d'aller au motel, c'est un peu déstabilisant, car on associe ces établissements à la prostitution ou à une rencontre un peu suspecte. Et puis cette différence culturelle laisse vite place à la surprise et au divertissement. C'est exactement ce qui s'est passé la première fois pour cette trentenaire qui vit à São Paulo depuis 12 ans, au point d'y revenir récemment, jeune maman. Elle s'est offert un moment hors de la maison, hors du temps, avec son mari.
Pour se retrouver, il nous fallait un cadre un peu différent, justement. En fait, on se met dans un personnage quand on rentre dans ces lieux-là. Voilà, l'ambiance crée, en fait, une atmosphère spéciale. Et donc, pour nous, c'était important de le faire après notre premier bébé, pour se retrouver, pour s'amuser ensemble et ne pas être papa-maman. Non, ça va au-delà du sexe, parce que je pense qu'on a réservé 4 heures. Donc, pendant 4 heures, il se passe plein de choses. Il y a des douches, en général, super agréables. Il y a le jacuzzi, on danse, on commande un plat, quelque chose de sympa. On se raconte des histoires.
Alors, comment peut-on commander un repas sans même voir la personne qui l'apporte? C'est assez astucieux pour respecter l'intimité des couples.
Le serveur livre, sonne la cloche pour prévenir que le repas est servi derrière la porte, donc il n'y a aucun contact avec l'employé. Il s'en va, le client prend le plateau dans cette petite pièce et découvre son dîner. Et la gastronomie ici est merveilleuse. Vin, champagne, plats chauds, desserts, entrées, tout ce que vous voulez. Et 24 heures sur 24.
Et en pleine pandémie, c'est aussi un atout pour attirer les clients. Les restaurants sont restés ouverts au Brésil, mais pour ceux qui préfèrent être sûrs de ne croiser personne, dîner dans sa chambre d'hôtel, de motel, limite beaucoup les risques. Felipe Martinez, directeur du Lush, se félicite que la formule des motels soit compatible avec les restrictions imposées par le coronavirus.
Naturellement, notre structure est organisée pour préserver la distanciation sociale. Pour le check-in et le check-out, tout est fait dans la voiture. À travers une vitre, le client n'est pas en contact avec nos employés ni avec les autres clients. On n'a pas de lobby, pas d'ascenseur. Alors avant, il y avait les cinémas, les restaurants, le théâtre, les bars. Mais là, les couples préfèrent dîner au motel avec cet avantage de dîner totalement à deux, sans contact avec un autre être humain. Et du coup, nos ventes de boissons et d'alimentation ont augmenté de 40% pendant la pandémie.
Malgré des réservations en baisse, le secteur s'en sort plutôt bien. D'ailleurs, ce motel a même embauché récemment. Christiane, la concierge, a quitté le secteur hôtelier pour se dédier à ce motel il y a 3 mois. Un nouveau rôle qui mêle respect de l'intimité et petites attentions pour ses clients. Un rôle qu'elle prend très à cœur. À San Paolo, Marino Dacher, Europe 1.
Retour dans le studio d'Europe 1. Je suis sûre que vous vous posez plein de questions sur ces motels brésiliens. Ça tombe bien, Marino Dacher est là pour nous en parler et elle est vraiment là pour le coup, en chair et en os. Bonjour Marie.
Bonjour Sophie.
Merci de cette petite visite parisienne. Précision, on voit que les motels sont à la fois très compartimentés mais que chaque client a un traitement un peu personnalisé.
Et oui, c'est un subtil équilibre que m'a décrit la concierge. Alors pour les demandes en mariage par exemple, il lui arrive de décorer la chambre mais aussi de laisser des petits mots personnalisés, ouais. Donc avec le prénom de l'heureux élu. Les clients lui demandent parfois conseil, elle connaît leur intimité, mais le code de conduite reste quand même de ne pas s'étonner si les partenaires changent le secret professionnel.
Évidemment,
quoi.
On a entendu une jeune femme qui parle très naturellement finalement de son expérience, ça donne l'impression que c'est pas du tout tabou d'aller au motel au Brésil.
Pas du tout, c'est très courant. Et puis il y en a pour toutes les bourses, de 50 reais pour 4 heures, alors environ 15 euros la chambre, à 80 euros environ. C'est le prix moyen dans ce motel que j'ai visité. Et puis il y a toutes les options. On peut commander un dîner, mais aussi des sextoys, des préservatifs, des lubrifiants, du chocolat, des déguisements. Il y a un menu assez détaillé et tout est livré par la petite porte magique dont on a parlé, sans contact. Et Felipe Martinez, le directeur, insiste, les motels, c'est pas que pour le sexe et la transgression, et les clients réguliers ne sont pas ceux que vous croyez.
80% du public sont les couples stables. De loin, le public numéro un des motels, alors que ce soit des amoureux, des fiancés, mariés, femmes, hétéros ou homosexuels, bref, des couples stables. Ensuite, on a les célibataires et leurs relations d'un soir qui se sont connues dans une fête, un bar, sur Tinder. Et puis, pour une question de sécurité, au lieu d'aller chez soi, on va au motel. Ils représentent environ 15% de nos clients. Et la plus petite proportion, environ 5%, ce sont les relations extra-conjugales. Donc ce public existe, oui, mais ce n'est pas la majorité des clients du motel.
On peut donc aller au motel avec son petit ami, son mari ou son amant.
Et ben voilà. Le Brésil, c'est le deuxième pays le plus touché par la pandémie au monde, hein, avec au moins 200 000 morts. On pourrait penser que les gens restent chez eux. Et pourtant, Marie, vous le disiez, les motels tirent leur épingle du jeu.
Oui, parce que c'est vrai que depuis le début de la pandémie, ces chambres sont nettoyées et désinfectées de fond en comble et ne sont pas relouées tout de suite. Donc en fait, le client est sûr de rentrer dans une chambre, dans un espace propre qui a été ventilé pendant au moins 12 heures. Les motels ont fermé quelques jours en mars, mais ce n'était pas une obligation légale. C'était juste pour avoir le temps de s'adapter. Et Felipe Martinez, le directeur, m'a expliqué qu'il avait embauché une boîte de consulting spécialisée pour renforcer l'hygiène de l'accueil au nettoyage des chambres, parce qu'en fait, les clients posaient la question avant de réserver.
Oui, ils se sont adaptés vite, finalement.
Très vite, les demandes de consommateurs évoluent. Par exemple, il n'y a plus de cinéma en ce moment. Ouais. Donc, il y a dans les chambres, dans certaines chambres, un home cinéma avec de vrais fauteuils de cinéma, un grand écran. Après, je ne peux pas vous dire quels sont les films les plus regardés.
Ben alors, l'enquête jusqu'au bout, Marie. Enquête au cœur des motels. Merci beaucoup pour cette visite originale et un peu coquine, mais pas trop. Et on comprend bien que les motels font partie, en tout cas, de la culture brésilienne. À bientôt Marie, depuis Sao Paulo la prochaine fois.
À bientôt Sophie.
Bon retour. Les amoureux éprouvés par le Covid. La suite, c'est dans un instant, on sera en Turquie.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Et on prend la direction d'Istanbul, car depuis quelques mois, la ville est devenue l'une des destinations favorites des amoureux binationaux séparés par la pandémie de coronavirus. La fermeture des frontières a empêché des couples de se rejoindre, parfois pendant de longs mois. Et même si certains pays européens ont accepté parfois de délivrer des laissez-passer, il fallait apporter des preuves de leur vie commune, ce n'est pas toujours possible. Et puis dans certains pays, vivre ensemble sans être marié, c'est interdit. La solution du pays tiers s'est donc imposée à beaucoup d'entre eux pour se retrouver. Bonjour Cerise Sudri-Ledu.
Bonjour Sophie.
Vous êtes à Istanbul, Cerise, et donc la Turquie, dont les conditions d'accès sont peu restrictives, a pris des airs de point de rendez-vous pour les amoureux du monde entier. Vous avez rencontré plusieurs de ces couples, et certains étaient séparés depuis des mois.
Oui, hein, et quand on parle de mois, c'est 7, 8, parfois 1 an de séparation. Il faut bien comprendre que si l'un des membres du couple n'est pas issu de l'espace Schengen, même si il ou elle a un visa, à cause de la pandémie, il faut désormais un laissez-passer en plus et pas facile de l'avoir. Par exemple, Salman est pakistanais, sa compagne Rita est allemande. Ils sont en couple depuis 2 ans et avaient entrepris des démarches pour vivre chez Rita en Allemagne. Mais le coronavirus a contrecarré leur plan.
Malheureusement, le Covid est arrivé.
Et il m'a appelé depuis l'ambassade et il m'a dit « ça y est, je peux venir en Allemagne ». On était très heureux. Et une semaine après, toutes les frontières étaient fermées. On veut se marier, on veut vivre ensemble, avoir des enfants. Mais c'est impossible à cause du gouvernement allemand et c'est vraiment triste. Alors on pouvait aller en République dominicaine et puis qu'est-ce qui était encore ouvert? Les Maldives, mais c'est vraiment loin.
Et donc les voilà en Turquie alors?
Oui, Rita étant européenne, Istanbul se trouvait à mi-chemin entre les deux pays. Et ici, les conditions d'accès sont beaucoup moins strictes. La Turquie demande parfois un simple visa qui peut s'obtenir très facilement. Et pendant longtemps, aucun test n'était demandé. Donc Salman, qui est un artiste reconnu au Pakistan, a pu venir. Et quant à sa compagne, Rita, elle a carrément pris un congé sabbatique pour le rejoindre et s'installer en Turquie avec lui. Ils vivent dans un petit appartement au-dessus de la place Taksim depuis 3 mois.
J'ai quitté la religion musulmane et 2 fois j'ai été menacé. Donc j'ai demandé à mon agent, qu'est-ce que je peux faire? Où je peux aller? Et il m'a répondu, la Turquie c'est ouvert, c'est facile d'avoir un permis de séjour là-bas. Et pour Rita aussi, alors je suis venu.
Il espère que la situation ne va pas s'améliorer et que je vais rester plus longtemps.
Alors le couple espère se marier bientôt et faire jouer le regroupement familial pour que Salman puisse entrer en Allemagne.
Ouais, le mariage, c'est finalement la seule solution durable pour eux.
Oui, c'est souvent la condition pour que ces couples puissent se rendre visite dans leurs pays respectifs. C'est aussi ce qu'ont fait Raïla et Arina, lui est américain, elle est russe. Ils se sont mariés à Istanbul le 30 décembre dernier et c'est casquette sur la tête qu'il s'est rendu dans le salon de mariage de la mairie d'Istanbul.
Si on avait habité le même pays, peut-être qu'on se serait mariés 5 ans plus tard. Mais là, on s'est dit, c'est maintenant ou jamais. Le mariage était très cool. Mais bon, ça s'est fait en 5 minutes, dans ce bâtiment où ils marient à la chaîne toutes les 20 minutes. Mais c'était chouette, parce que j'ai dû dire oui en 3 langues différentes. Evet, da, yes.
Da, yes.
Arina est repartie en Russie préparer l'arrivée de son amoureux. Un nouveau départ programmé pour 2021, d'autant plus que le jeune homme qui va avoir 30 ans compte la rejoindre là où elle habite, c'est-à-dire en Sibérie.
J'ai déjà froid ici à Istanbul et elle m'envoie des captures d'écran où il fait moins 24 degrés.
Raïla s'est mis au russe, c'est un grand changement pour lui qui n'avait jamais appris de langue étrangère.
Ouais, comme quoi l'amour mène à tout. Merci beaucoup Cerise.
Au revoir Sophie.
Au revoir. Et on va boucler ce petit dossier sur les amoureux en galère à cause du Covid par un petit tour sur la frontière entre l'Allemagne et le Danemark avec cette histoire très romantique de 2 amoureux déterminés. Inga Rasmussen vit côté danois, elle a 85 ans et Carsten Hansen vit côté allemand, il a 89 ans. Et quand la frontière a fermé au printemps dernier, ils ont décidé de se retrouver tous les jours à côté de la barrière rouge et blanche. C'est quand même pas un virus qui va les arrêter, a expliqué Carsten à Hélène Kohl. L'écoutez.
Pendant 8 semaines exactement, nous nous sommes retrouvés là tous les jours. Dans le vent, sous la pluie, par tous les temps possibles. Elle était sur son siège au Danemark et moi en Allemagne. À un moment, il faisait trop froid. Alors je lui ai fait installer un abri de plage pour qu'elle puisse se pelotonner et faire sa sieste. Dans la semaine, on déjeunait chacun de son côté et on se rejoignait dans l'après-midi. Mais le samedi et le dimanche, elle apportait un bon repas qu'on prenait ensemble. Et c'est comme ça qu'on est devenu célèbre dans le monde entier. On est même passé à la télé. Oui, et aujourd'hui encore, quand je vais faire mes commissions, les gens saluent en me disant « Tiens, voilà la star de la télé ». Mais il faut dire qu'on a tenu bon par tous les temps. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Et depuis, elle vient dormir chez moi tous les soirs. Là, on vient de prendre le café ensemble. Je mets les petits plats dans les granges, la gâte. Le samedi et le dimanche, c'est moi qui y vais et je profite d'un bon repas et on fait notre sieste avant de rentrer chez moi. Elle dans sa voiture et moi en vélo. Je fais tous les jours 35 km, vous savez. Elle dit qu'elle n'a jamais eu une aussi belle vie que maintenant. En mai, cela fera 3 ans qu'on est ensemble, nous sommes tous les deux veufs, et moi, bien discipliné comme un Allemand, j'ai porté le deuil 2 ans. Mais, car il y a un mais, en ce moment, Inga peut venir sans problème en Allemagne. Par contre, les Danois font des difficultés pour moi. Lundi, j'ai voulu passer et le policier danois me dit que je dois avoir une attestation comme quoi je suis négatif au Covid. Pourtant, j'ai une autorisation spéciale du Danemark pour aller rendre visite à Inga. Et aujourd'hui, dans le journal, ils disent que tous les frontaliers devront se faire tester tous les jours pour avoir le droit de passer. C'est complètement fou. Moi, j'ai dit que je vais juste de ma maison à celle de Inga. Nous ne voyons personne au Danemark, nous ne voyons personne en Allemagne. Puis je me suis dit, une femme comme ça, elle vaut la peine. Je suis allé directement chez mon médecin et j'ai payé 40 euros. C'est une grande histoire d'amour, vous savez.
Voilà Inga et Karsten qui, je suis sûre, vous auront rendu le sourire. Et vous ne devriez pas le perdre, le sourire, avec Joseph Chovanec qui sera en ligne avec nous dans un instant. On prend la direction de l'Autistan.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Dernière étape des carnets. Comme chaque dimanche, on fait un petit détour en Autistan avec l'ami Joseph Chovanec. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
Vous êtes en ligne avec nous depuis la Belgique. Alors philosophe, voyageur, attentif et infatigable et autiste Asperger, on pourrait donc parier que votre couleur préférée c'est le bleu, mais en fait pas seulement.
La mienne oui, mais selon les pays, selon les cultures, les gens ne voient pas les couleurs de la même façon. C'est un sujet d'étude, d'émerveillement pour les scientifiques spécialisés. Par exemple, le nombre de couleurs que l'on distingue dans un arc-en-ciel varie selon les cultures, de même que le degré de séparation entre les couleurs. Beaucoup de langues ne font pas de différence entre bleu et vert.
Et tout ça sans être daltonien, hein ?
Oui, ça n'a rien à voir avec la vue sur le plan médical. Hein. Je n'ai pas de prétention scientifique pour expliquer ces mystères. Je me contente de les savourer. Et je suis de plus en plus convaincu qu'il y a un sens esthétique particulier sur les cultures. Je me suis fait la réflexion dimanche dernier pendant mes balades transfrontalières à vélo. Hein. On peut deviner dans quel pays on est, rien qu'à l'harmonie générale des couleurs, des maisons, des rues. Schématiquement, plus vous allez vers le sud de l'Europe, plus les contrastes sont vifs. À l'inverse, à partir des latitudes du nord de la France, tout tend à être dans les mêmes tons, de préférence sombres. J'ai souvent interrogé les amis belges de ce qu'ils pensaient, par exemple, des maisons à fort contraste de couleurs. Souvent, ça les choque. Hein. Et à mon sens, c'est la raison pour laquelle en Belgique ou en Hollande, l'immense majorité des maisons sont en briques nues, sans enduit, sans plâtre. Comme ça, on a la certitude que toutes les maisons auront la même teinte sombre. Et si vous voulez peindre votre maison dans une autre couleur, hein, vous serez un voisin un peu excentrique. Et les gens, en passant devant chez vous, feront bien des remarques.
Mais Joseph, c'est peut-être juste parce que les matériaux locaux, naturels, sont sombres.
Oui, et c'est ce que l'on recherche. Hein. Ah. En Scandinavie, mais aussi aux Pays-Bas, on construit de faux chalets. Hein. La maison est en briques, comme ailleurs, mais elle est recouverte de planches de bois très sombres. De même, les toits sont souvent de faux toits en chaume sombre. Hein. Par-dessus le toit normal, on pose une espèce de fausse chaume presque noire. C'est du dernier chic, mettons, dans les régions rurales des Pays-Bas.
C'est peut-être chic, mais c'est pas très joyeux, ce tableau que vous nous brossez.
C'est une sorte de quête psychologique, hein, ce que j'assimilerais à un autisme culturel, des cultures qui sont, je dirais, proches de l'autisme. Je pense bien sûr à la Finlande, à l'Estonie. Mon coup de cœur pour l'Estonie s'explique sans doute par leur juxtaposition de bleu sombre et de noir, que l'on retrouve sur le drapeau, mais aussi un peu partout dans le pays. Il fallait oser. Hein. L'autre pays emblématique de ces cultures proches de l'autisme, c'est le Japon, avec une esthétique qui évite autant que faire se peut les contrastes violents de couleurs. Il suffit de mettre les pieds dans un temple Shinto, dans les ruelles d'une vieille ville japonaise comme Kyoto, pour comprendre cela. Tout est dans les mêmes tons, une palette restreinte de couleurs, des motifs très réguliers.
Mais Joseph, à l'inverse, on a tous vu des images de maisonnettes très colorées, rouges ou jaunes, dans ces pays du nord de l'Europe en particulier. Je pense au Danemark ou même à l'Islande.
Oui, Sophie, dans chaque culture, il y a des moments, il y a des lieux où, par exception, le système bascule. C'est ce que j'appelle les moments LSD. Hein. Au Japon, c'est bien sûr le mythique quartier Akihabara de Tokyo, hein, où tout semble inversé, en couleurs violentes, juxtaposées n'importe comment, où les Japonais aiment venir flâner après une journée de travail. En Russie, ce sont les fabuleuses et très originales originale couleur de la cathédrale Basile le Bienheureux, Savor Vassilia Blagenieva, dû aux caprices d'un tsar et qui sont devenus l'emblème de la Russie. En Estonie, c'est la vieille ville de Tallinn, la fameuse Vanaline, d'une beauté saisissante, hypnotique, que j'ai passé des centaines d'heures à contempler, mais qui évoque plus l'Italie de la Renaissance que la Scandinavie. Là encore, presque personne n'y habite, mais on s'y rend pour se changer les idées. En somme, l'important n'est pas tant que l'on habite dans une zone avec tel ou tel système esthétique, mais que l'on puisse se rendre ailleurs. En japonais, on dirait Junin Toiro, 10 personnes, 10 couleurs.
Ah, très bien. Vive la diversité, notamment celle des couleurs. Merci beaucoup, Joseph. Je pense que vous nous parliez depuis votre université. On a entendu du monde un petit peu derrière vous. Même le dimanche, ça bosse. Merci beaucoup. À dimanche prochain.
Merci. À bientôt.
Clap de fin, on referme les carnets du monde. Merci de nous avoir accompagnés dans nos vadrouilles dominicales que vous retrouvez sur europe1.fr comme toujours. Rebonjour Nicolas Caron.
Rebonjour.
C'est vous qui prenez le relais, qu'est-ce que vous allez nous raconter?
Alors, je reçois l'écrivain Olivier Adam pour son nouveau roman et puis, je visite la bibliothèque d'un ministre en exercice, Bruno Le Maire, le ministre des Finances.
Et écrivain un petit peu. Hein.
Écrivain
aussi. Et nous avec vous, La Voix et Livre, c'est dans quelques minutes. Quant à moi, avec Marc Fréjean qui a réalisé cette émission et Marion Gauthier qui m'a aidé à la préparer, on vous souhaite une bonne fin de week-end à l'écoute d'Europe 1. On vous donne rendez-vous dimanche prochain.
Europe 1, 13h, 14h, les carnets du monde.